Cela dit, et je passe au deuxième temps de ma réflexion, la transformation fondamentale pour Pythagore, c'est la métempsychose. Et de manière significative, Ovide nous précise, juste avant de donner la parole au philosophe, que celui-ci n'a pas été cru. Et puis il lui fait dire qu'il ne croit pas au mythe. Or, les métamorphoses sont une somme mythologique absolue. Et leur sujet n'est pas les incarnations successives des âmes dans des corps, mais les transformations des corps sous l'effet des tourments des âmes. Leur dessein, c'est de sonder des centaines de fois le moment d'hybridité entre l'avant et l'après de ces transformations, entre les formes d'un homme et d'un loup, de dragon et d'une armée, d'une femme et d'un arbre, ou d'un équipage de marins et d'un groupe de dauphins. Scovide scrute, c'est la façon toujours différente dont la matière bascule et dont l'identité physique des êtres est assiégée puis envahie par l'altérité, qui à son tour va permettre la réunion du personnage avec son identité profonde. Tout corps et le monde lui-même est en proie à cette dialectique et fonctionne comme une interface pouvant accueillir à tout moment la contamination réciproque du même et de l'autre. Par sa cruauté, le roi Lycaon est déjà un loup. Et quand Jupiter fait s'abattre la foudre sur son palais, la forme du loup vient juste s'imprimer à la surface de son corps. C'est la première métamorphose du poème, texte 7. Épouvanté, il s'enfuit. Et après avoir gagné la campagne silencieuse, il se met à hurler. En vain, il s'efforce de parler. Toute la rage de son cœur se concentre dans sa bouche. Sa soif habituelle du carnage se tourne contre les troupeaux. Et maintenant encore, il se plaît dans le sang. Ses vêtements se changent en poils, ses bras en jambes. Devenu un loup, il conserve encore des vestiges de son ancienne forme. Il a toujours le même poil gris, le même air farouche, les mêmes yeux ardents. Il est toujours l'image de la férocité. Comme dans ce récit matriciel, identité et altérité cohabitent toujours au terme de la mutation du corps. Et les personnages qui la subissent sont tous, en ce sens, des hybrides. L'homme et le loup se côtoyaient chez le roi sanguinaire et continueront chez la bête sauvage qui portera dans sa chair le souvenir de l'homme. Le langage inventé par Ovide pour dire au plus près cette hybridité perpétuellement recomposée nous conduit parfois ouvertement dans le champ de la contagion, voire de la maladie. Au livre 5, la nymphe Arétuse, dans sa course pour échapper à la poursuite amoureuse du dieu fleuve Alphée, se couvre d'une transpiration qui se communique à tout son corps et provoque sa liquéfaction. Texte 8. Pendant qu'il m'assiège, une sueur froide se répand sur mes membres. Des gouttes azurées s'écoulent de tout mon corps. Partout où je pose le pied, il se forme une mare. Une rosée tombe de mes cheveux, et en moins de temps que je n'en mets à te le raconter, je suis changée en fontaine. Au livre 9, Dryope voit l'élément végétal se transférer sur son corps depuis l'arbre dont elle a cueilli des fleurs, sans savoir qu'il abritait une nymphe. Texte 9, c'est la sœur de Dryope qui raconte la scène. Je vis des gouttes de sang tomber de ses fleurs et leurs tiges s'agiter, secouées par un frisson. Épouvantée, elle veut revenir sur ses pas et s'éloigner des nymphes qu'elle était venue adorer, mais ses pieds avaient pris racine et adhéraient à la terre. Elle lutte pour les en retirer, mais elle ne peut mouvoir que le haut de son corps. L'écorce monte lentement du bas, enveloppe peu à peu ses deux aines. À cette vue, elle porte la main à ses cheveux et cherche à les arracher. Sa main se remplit de feuilles. Des feuilles couvraient toute sa tête. Et Ovide dit ensuite longuement la prise de possession du corps par l'arbre qui vient non pas se substituer à lui, mais le recouvrir. La coexistence, donc l'hybridité, étant ici totale et dramatique. Plus parlante encore est la métamorphose d'Aglauros, qui, au livre 2, est transformée en pierre après avoir défié le dieu Mercure, texte 10. Elle s'efforce de se lever, mais toutes les parties du corps qu'on fléchit en s'asseyant sont immobilisées chez elle par une pesanteur qui les paralyse. Elle lutte pour redresser sa taille et se mettre debout, mais les jointures de ses genoux se raidissent, le froid se glisse jusqu'au bout de ses ongles et ses veines, où le sang n'arrive plus, se décolorent. Comme un cancer irrémédiable, en se propageant, je pense qu'il y a un « en » que j'ai oublié, étend en tous sens ses ravages, et après les parties infectées gagnent les parties saines, ainsi, les glaces de la mort pénétrant peu à peu dans sa poitrine, y barrent les canaux de la vie et de la respiration. Elle n'essaya point de parler. L'eût-elle essayé, sa voix n'aurait plus trouvé d'issue. Déjà, la pierre occupait la place de son cou, son visage s'était durci. Toujours assise, elle n'était plus qu'une statue exsangue. La pierre n'était plus blanche, son âme l'avait noircie. On le voit, le processus de la métamorphose ovidienne est parfois réalisé par un ou des acteurs. Et pour certains, le lien entre métamorphose et contamination est explicite. C'est notamment le cas à travers certains gestes qui relèvent presque de la chimie. Au livre 4, Mercure et Vénus interviennent à la demande d'Hermaphrodite, leur fils, dont la nymphe Salmacis a fait fusionner son corps avec le sien. C'est donc encore une histoire d'abolition des frontières et d'hybridité. Ils empoisonnent l'eau dans laquelle la transformation a eu lieu, afin que désormais, s'y baigner fasse perdre aux hommes leur virilité. Texte 11. Leurs deux corps mêlés se confondent et revêtent l'aspect d'un être unique. Quand on rapproche deux rameaux sous la même écorce, on les voit se souder en se développant et grandir ensemble. Ainsi, depuis qu'un embrassement tenace les a unis l'un à l'autre, ils ne sont plus deux. Et pourtant, ils conservent une double forme. On ne peut dire que ce soit là une femme ou un jeune homme. Ils semblent n'avoir aucun sexe et les avoir tous les deux. Donc, voyant que par l'effet de ces eaux limpides où il était descendu, homme, il n'est plus mâle qu'à moitié, et que ses membres ont perdu leur vigueur, alors, tendant les mains, mais avec une voix qui n'avait plus rien de viril, Hermaphrodite s'écrie « Accordez une grâce à votre fils, ô mon père, ô ma mère, vous qui lui avez donné vos deux noms, que tout homme qui se sera plongé dans cette fontaine ne soit plus homme qu'à moitié quand il en sortira, et qu'au contact de ses eaux, il perde soudain sa vigueur. » Sensibles l'un et l'autre à cette prière de leur fils au double nom, les parents l'exaucèrent et répandirent dans la fontaine un suc impur et malfaisant. Autre exemple, la subtile opération accomplie par Vénus sur le sang d'Adonis, mort, pour transformer ce sang en anémone et donner ainsi à son amant, par métaphore et métonymie, une vie éternelle. Texte 12. Elle répand sur le sang du jeune homme un nectar embaumé. À ce contact, il bouillonne comme les bulles transparentes qui, au fond d'un bourbier, montent à la surface de ses eaux jaunâtres. Il ne s'est pas écoulé plus d'une heure que de ce sang naît une fleur de même couleur, semblable à celle du grenadier qui cache ses graines sous une souple écorce. Mais on ne peut en jouir longtemps, car mal fixée et trop légère, elle tombe, détachée par celui qui lui donne son nom, le vent. Dans les trois derniers épisodes que j'ai cités, on est tout près de la magie. Mercure affronte Aglauros avec une baguette, des fluides viennent altérer la composition de l'eau ou du sang. Or, Ovide a donné dans les métamorphoses une épaisseur inédite aux deux grandes magiciennes de la mythologie antique, Médée et Circé. Et il l'a fait d'une manière qui approfondit encore le rapport entre métamorphose et contamination, car ce sont des personnages dont l'activité consiste précisément à supprimer les frontières, à révéler et exploiter la porosité du monde. Voici comment, au livre 7, Médée parle de ses propres pouvoirs. Texte 13. « Quand je l'ai voulu, les fleuves, entre leurs rives étonnées, ont remonté vers leurs sources. J'apaise par mes chants les flots agités et j'agite les flots paisibles. Je dissipe et j'amasse les nuages, je chasse et j'appelle les vents. Je réduis à l'impuissance par mes incantations la gueule des serpents. J'arrache tout vif à leur terre natale des rochers, des chênes, des forêts entières et je les mets en mouvement. Je fais trembler les montagnes, mugir le sol, sortir les mânes des tombeaux. Toi aussi, ô lune, je t'attire jusqu'à moi en dépit des bronzes de Thémèse qui diminuent tes souffrances. Mes chants font pâlir le char de mon aïeul, le soleil. Mes poisons font pâlir l'aurore. » Au livre 14 aussi, quand Circé entre en action, ce sont tous les repères ordinaires, toutes les démarcations qui s'effacent, toutes les dimensions du réel, y compris la vie et la mort, qui se mettent à cohabiter et à interagir. Texte 14. Alors elle répand autour d'elle des substances pestilentielles et des sucs vénéneux. Elle invoque la nuit, les dieux de la nuit, les rêbes, le chaos. Et elle adresse des prières à Hécate avec de longs hurlements. Les forêts, ô merveille, bondissent hors de leur emplacement. La terre gémit, les arbres du voisinage pâlissent. L'herbe est trempée de gouttes de sang. Les rochers poussent de rauques gémissements. Les chiens aboient, le sol est souillé de serpents hideux. Et dans les airs voltigent les âmes subtiles des morts silencieux. Expertes dans la puissance du chant et dans la transformation de la matière, Médée et Circé sont des doubles du poète-narrateur des métamorphoses. Elles activent de la même manière que lui la friabilité de ce qui sépare les composants du monde. Et elles le font avec la même connaissance de la nature humaine, comme quand Circé se sert de la soif des compagnons d'Ulysse pour les transformer en porcs, leur faisant ainsi rejoindre leur part d'animalité, de sauvagerie, en une traversée existentielle qu'ils n'oublieront jamais, même redevenus hommes. Texte 15. Sans perdre un instant, elle donne l'ordre de mêler ensemble des grains d'orge grillés, du miel, du vin capiteux, du lait caillé, et elle y ajoute furtivement des sucs que doit déguiser la douceur du breuvage. Nous recevons les coupes qu'elle nous offre de sa main divine. À peine notre bouche desséchée par la soif les a-t-elle vidées, à peine la cruelle déesse a-t-elle de sa baguette effleuré nos cheveux, je ne puis le dire sans honte, que mon corps se hérisse de soie et que la parole me manque. Au lieu de mots, je ne fais plus entendre que de rauques grognements. Je me baisse vers la terre, la tête en avant, et je sens que ma bouche se durcit sous la forme d'un groin retroussé. Les muscles de mon cou se gonflent, mes mains, avec lesquelles je venais de saisir la coupe, me servent à marcher. Aussi bien que mes compagnons, victimes du même sortilège, tant est puissante la vertu d'un tel breuvage, je suis enfermée dans une étable. Et plus loin, la métamorphose inverse. À mesure que se déroulent ces incantations, nous nous redressons au-dessus de la terre. Nos soies tombent, la fente qui partageait nos pieds en deux moitiés s'efface. Nous retrouvons nos épaules et au-dessous de nos coudes reparaissent nos avant-bras. Notre chef pleurait. Nous l'embrassons en pleurant nous-mêmes et nous restons suspendus à son cou. Nos premières paroles expriment toute notre reconnaissance.